Deutsche Welle Afrique 7 jours.
Bonsoir à tous et bienvenue à ce magazine présenté par Eric Topona. Au menu d'Afrique 7 jours, l'Afro-Presse ou le commentaire de l'actualité africaine par les journalistes allemands. Et comme la semaine dernière, c'est Bob Barry qui est une fois de plus ici dans ce studio pour l'Afro-Presse. Alors Bob, bonsoir.
Bonsoir Eric Topona.
Alors quels sont les thèmes que vous nous proposez ce soir ?
Alors ce soir, nous évoquerons la guerre civile au Soudan du Sud et les accusations de cannibalisme portées contre les partis en conflit. Nous parlerons aussi des résultats contestés de la présidentielle en Tanzanie.
Merci Bob et on vous retrouve tout à l'heure dans la dernière partie de ce magazine pour l'Afro-Presse. Entre-temps, vous restez avec nous. Afrique 7 jours, c'est aussi Blogosphère ou la tribune dédiée aux blogueurs africains. Et actualité oblige, nous nous rendons à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, où est déjà en ligne Sui Kaofi qui anime un blog, la Côte d'Ivoire au jour le jour. C'est bien cela?
Oui, c'est bien cela, la Côte d'Ivoire au jour le jour. C'est un blog dédié à l'actualité de la Côte d'Ivoire dans toutes ses composantes, que celle-ci soit sociale, économique ou bien sûr politique, comme ça a été le cas avec les dernières élections que nous avons vécues ici et qui ont consacré le président Alassane Ouattara grand vainqueur.
Sui Kaofi, restez en ligne et je reviens à vous tout à l'heure dans la rubrique Blogosphère. Afrique 7 jours, c'est d'abord et surtout la rétrospective hebdomadaire de l'actualité africaine qui nous mène justement en Côte d'Ivoire où le président sortant Alassane Dramane Ouattara a été réélu dès le premier tour de l'élection présidentielle du 11 octobre dernier. Il est suivi, mais loin derrière, par Pascal Affine-Guessant, le président contesté du FPI, le Front populaire ivoirien, le parti fondé par l'ex-président Laurent Gbagbo. Pascal Affine-Guessant, mercredi à Abidjan.
Je prends acte de ce résultat et je lui adresse mes félicitations. Je note cependant que les résultats affichés et les scores des candidats dans les différentes régions dressent le tableau d'un pays encore sous le traumatisme de la guerre. Des taux de participation records, 80 à 100% dans des zones encore récemment occupées par la rébellion armée de 2002, et où le candidat du RHDP réalise des scores avoisinant les 100%. Ce n'est pas un signe de santé démocratique, mais plutôt la traduction d'une prise en otage et d'une absence de la liberté d'expression et d'opinion dans ces régions.
Voilà, c'était les pics de Pascal Affine-Guessant, candidat malheureux du FPI, le Front populaire ivoirien, à l'élection présidentielle du 11 octobre en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, on en reparlera tout à l'heure dans la rubrique Blogosphère avec le blogueur ivoirien Sui Kaofi. Abou Vazi Molo Molo, c'est une chanson donc du groupe ivoirien Magic System. Et de la Côte d'Ivoire, on prend la direction de la région des Grands Lacs avec un arrêt au Burundi. Le Burundi qui est toujours en proie à une insécurité ambiante à Bujumbura. Insécurité qui s'étend maintenant à l'intérieur du pays. Face à la dégradation de la situation, eh bien, l'Union européenne a invité lundi les autorités burundaises à des consultations sur les atteintes à la démocratie dans le pays. Une procédure prévue par l'article 96 des accords de partenariat UE-ACP, c'est-à-dire Afrique, Caraïbes et Pacifique. Catherine Rey est la porte-parole de la haute représentante de l'Union européenne à la diplomatie.
Cet objectif de ces consultations, c'est de trouver une solution acceptable par tous pour trouver des mesures afin de respecter l'accord. Ces consultations doivent être menées dans les 30 jours qui suivent cette invitation et donc on espère pouvoir mettre autour de la table les différentes parties du Burundi et avec nous pour discuter, de voir comment faire pour mieux respecter l'accord. Cette invitation s'inscrit dans le cadre des efforts faits par l'Union africaine et également la communauté de l'Afrique de l'Est pour essayer de ramener le pays vers une solution politique et mettre fin aux violences.
La porte-parole de la haute représentante de l'Union européenne à la diplomatie, Catherine Rey. Et puis le gouvernement burundais a pris acte de la procédure enclenchée par Bruxelles et promet d'y donner suite dans le délai imparti. Nous terminons cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité africaine de la semaine par le Congo-Brazzaville où l'opposition continue de contester l'adoption du projet de révision de la Constitution. Par ailleurs, l'envoyé spécial de l'ONU pour l'Afrique centrale, Abdoulaye Batili, a tenté cette semaine une médiation entre les acteurs politiques. Cette médiation a-t-elle porté ses fruits? Écoutez la réponse de Guy-Romain Kimfoussiam. Il est le porte-parole du FROCAD, le Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique.
Je ne pense pas que M. Batili ait réussi. En tout cas, on peut dire qu'il n'a pas réussi cette mission-là. Il a trouvé localement une autre situation, qui est celle de l'enfermement de deux leaders de l'opposition à domicile, arrêtés pour des raisons inconnues du public. Et là également, il n'a pas réussi à leur faire retrouver leur liberté. Si bien que quand nous l'avons rencontré quelques heures avant son départ, il nous a signifié qu'il partait un peu découragé de n'avoir pas réussi à faire changer les choses.
Voilà le porte-parole du FROCAD, l'une des plateformes de l'opposition congolaise, Guy-Romain Kimfoussia. Il y a des choses difficiles à gérer, oh yeah. Mais quand tu sais d'où tu viens, tu dois savoir où tu t'en vas, oh yeah. Vous écoutez toujours Afrique 7 jours et c'est sur les antennes de la Deutsche Welle, la radio internationale allemande, depuis nos studios de Bonn. Il est l'heure de passer à la rubrique suivante, Blogosphère, le rendez-vous avec les blogueurs africains, avec pour destination Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, où nous attend le blogueur Sui Kaofi.
Blogosphère.
Voilà, suis Kaofi, vous êtes là, j'imagine.
Oui.
Voilà. Donc, vous avez suivi, vous l'avez dit vous-même, l'élection présidentielle et tout le processus qui allait avec. Est-ce que vous êtes satisfait du déroulement de cette élection présidentielle?
Oui, en tant qu'Ivoirien, je dirais comme tous les autres Ivoiriens, je suis personnellement satisfait. Parce que lorsqu'on sait d'où vient la Côte d'Ivoire, je vais parler de la crise post-électorale de 2010, il y a de quoi être heureux de savoir que c'est ainsi qu'une élection présidentielle doit s'achever, où le vainqueur reconnaît sa victoire, où les vaincus également reconnaissent qu'ils ont perdu cette élection. Je ne m'attarderai pas sur le taux de participation, le taux de répartition de différences. Je ne m'attarderai pas sur le taux de participation ou bien tout simplement le taux avec lequel le chef de l'État a été réélu. Mais moi, ma première satisfaction, c'est la maturité dont les Ivoiriens ont fait preuve. C'est vrai qu'au départ, il y avait quelques craintes. On a vu dans Abidjan des longues files où des personnes étaient venues dans des supermarchés pour faire des emplettes pratiquement pour 2 mois, craignant que derrière, après ces élections, il y ait de la contestation comme en 2010. Mais force est de constater que les Ivoiriens ont véritablement fait preuve de maturité politique. Ils ont accepté ces résultats en état. Et pour moi, c'est la plus grande des satisfactions au-delà de la victoire d'Alassane Ouattara.
Oui, Alassane Ouattara a été donc réélu dès le premier tour. Certains de vos compatriotes pensent qu'il a été élu sans triomphe puisqu'il n'y avait pas vraiment des candidats de poids face à lui. Est-ce que vous êtes du même avis?
Oui, c'est tout à fait vrai. Quand on regarde les moyens avec lesquels il a battu campagne et la période sur laquelle il s'est réellement préparé, il faut dire dans une certaine mesure que les moyens n'étaient pas les mêmes pour tous les candidats. Les cadres du Front populaire ivoirien, après leur dernière conférence de presse à laquelle j'ai assisté, ont tout simplement souligné le fait qu'Alassane Ouattara a eu assez de moyens pour pouvoir battre sa campagne. Il se déplaçait en hélicoptère lorsque cela s'imposait. Il avait tout le temps de tenir des réunions, de faire des meetings dans son siège. Il n'était pas intimidé. Donc, 5 années pour préparer une élection, c'est tout à fait normal que ce résultat-là soit connu. Quand on sait que de l'autre côté, durant 5 années, l'opposition a été fortement fragilisée. Il fallait penser aux amis qui étaient en détention, également penser à tous ceux, celles qui étaient en exil, penser pourquoi pas aux stratégies pour influencer la justice internationale au niveau de la Cour pénale internationale qui, je le rappelle, aujourd'hui, a entre ses mains Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et d'autres leaders.
Oui, justement, Laurent Gbagbo, l'ex-président ivoirien, qui est apparemment donc le plus grand absent, de cette élection présidentielle. Est-ce que son ombre a plané pendant la campagne électorale?
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'opposition, véritablement, a voulu surfer sur cette vague-là du Laurent Gbagbo qui est en détention et qui, sans lui, la réconciliation ne serait pas possible en Côte d'Ivoire. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Laurent Gbagbo a été même un argument de campagne. Beaucoup de personnes disaient, si je suis réélu, la première des choses, c'est de faire revenir Laurent Gbagbo. Alors, c'est pour vous dire d'entrée de jeu que Laurent Gbagbo est certes loin de la Côte d'Ivoire, mais il demeure, pour beaucoup d'Ivoiriens, un acteur clé du processus électoral et même du processus de réconciliation en Côte d'Ivoire.
Oui, mais pourtant, Sui Kaofi, le candidat du FPI, Pascal Afinguessan, n'a même pas dépassé la barre des 10%. Est-ce que le FPI n'a pas été complètement décapité?
Décapité, non. Je voulais tout simplement dire que la crise, le bicéphalisme à la tête du Front populaire ivoirien aujourd'hui, qui est incarné par une tendance Abdourahmane Sangaré, une tendance Afinguessan, sont deux tendances qui n'ont pas la même vision politique. Afinguessan veut la reconquête du pouvoir d'État par la force des unes pour pouvoir véritablement arriver à influencer sur le choix de la Cour pénale internationale. Or, la tendance Abdourahmane Sangaré est dans une logique de Gbagbo ou rien. Alors, c'est ce qui réellement a fait que Pascal Afinguessan est parti à la limite ECL. Décapité, je ne dirais pas décapité, mais je dirais plutôt fragilisé. Parce qu'aujourd'hui, si les deux tendances du Front populaire ivoirien arrivent à s'entendre, il est clair que ce n'est pas un score de 9% qu'ils auraient pu engranger. Et aujourd'hui, la question qui se pose, c'est qui représente véritablement le FPI?
Oui, et je vous repose la question, qui est légitime en ce moment pour prendre la tête du FPI?
Alors, je dirais aujourd'hui qu'avec le score qui a été enregistré par Pascal Afinguessan, il est clair que la tendance Abdourahmane Sangaré cristallise et mobilise un peu plus les acteurs du Front populaire ivoirien. Les militants se reconnaissent plus en cette tendance-là parce que pour eux, il sera aujourd'hui impensable de parler du Front populaire ivoirien sans parler de son créateur, Laurent Gbagbo.
Oui, beaucoup disent aussi à Abidjan que Pascal Afinguessan est un opposant fabriqué par Alassane Ouattara. Est-ce que vous avez entendu parler de ça?
Bien sûr. Ce matin encore même, le quotidien d'Abidjan, qui est un organe de presse et un tabloïd local, parlait de 400 millions de francs CFA, de primes additionnelles en plus des 100 millions qu'on avait déjà annoncés. Donc 400 millions pour chacun des candidats pour accompagner le président Alassane Ouattara dans ce qu'ils ont qualifié de forfaiture politique. C'est pour vous dire tout simplement qu'il y a de fortes suspicions qui planent sur Pascal Afinguessan dans la mesure où, lors de la contestation politique au sein de son parti, il avait toujours de son côté la force régalienne. Alors, d'autres ont dit tout simplement que ce n'est pas au gouvernement d'Alassane Ouattara de venir gérer une tension interne au sein du Front populaire ivoirien et qu'il fallait laisser les militants du FPI régler leurs problèmes. Alors, c'est tous ces éléments, l'un mis dans l'autre, qui ont permis aujourd'hui à beaucoup d'Ivoiriens de croire que Pascal Afinguessan est tout simplement allé légitimer Alassane Ouattara le 25 octobre.
Oui, Alassane Ouattara n'est qu'un homme, va certainement partir un jour. Est-ce qu'il pense déjà à sa succession? On pense que Guillaume Soro ou bien Bakayoko sont sur la liste.
L'Afrique d'Ivoire n'est pas l'héritage du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Ce n'est pas M. Alassane Ouattara de décider qui va le remplacer à la tête de la Côte d'Ivoire. Ce qui est une priorité, c'est qu'au sein du RHDP, je suppose que cette coalition qui a aujourd'hui un récépissé qui fonctionne en tant qu'un parti politique, ils vont décider entre eux de qui sera l'alternance. Les cadres du TLCI se voient déjà président de la République ou candidat au nom du RHDP. Ça, c'est une cuisine interne du RHDP. Kamed Bakayoko veut devenir président de la République, c'est son choix, c'est son droit le plus légitime. Il est ivoirien et conformément à la Constitution, il peut être président. Que Guillaume Soro vienne président, c'est tout à fait normal. Mais la chose, c'est qu'il ne faut pas que le collectif des Oufouettistes pense aujourd'hui qu'ils sont dans une logique de parti unique. C'est-à-dire qu'après Alassane Ouattara, il faut toujours créer des margouilles, un système pour revenir à ce que j'appelle une atmosphère de parti unique. Non. Alassane Ouattara sait qu'il a deux mandats à faire à la tête de la Côte d'Ivoire. Pour nous autres, c'est lorsqu'il va tenter de se maintenir au pouvoir que la vraie guerre va commencer. Parce qu'en tant que jeune Ivoirien, je ne suis pas prêt à laisser quelqu'un venir tripatouiller la Constitution et se maintenir au pouvoir. Okay. Alassane Ouattara dit qu'il est démocrate. C'est au soir de son prochain mandat qu'on saura si lui ou non il est réellement démocrate.
Ouais, d'accord, on n'en est pas encore là, mais bon, on suivra l'actualité en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, hein, Sui Kaofi, d'avoir été donc, en ligne d'Abidjan.
Merci beaucoup. Amou.
Et est-ce que vous pouvez rappeler peut-être à nos auditeurs le lien de votre blog?
Alors, le lien du blog La Côte d'Ivoire joue le jour, c'est eburnitoudé.mondoblog.org.
D'accord. Encore une fois, merci. Bonne fin de soirée à Abidjan et à très bientôt sur nos antennes.
Merci.
Sous le béton, mon ami Oise, Oise.
Après Blogosphère, c'est maintenant l'Afropresse avec Bob Barry. Et Bob, on commence par la guerre civile au Soudan du Sud et les accusations de cannibalisme portées contre les partis en conflit. Et
c'est bien cela, selon un rapport rendu public par une commission d'enquête de l'Union africaine sur la guerre civile au Soudan du Sud. Les deux protagonistes du conflit se livreraient à des actes de cannibalisme, commente le quotidien Frankfurt Allgemeine Zeitung. Et le journal de poursuivre les enquêteurs de l'UA qui sont placés sous l'égide de l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, se sont rendus dans les localités de Bor, de Malakal, de Bentou, trois villes très éprouvées par le conflit qui met aux prises des hommes du président Salva Kiir et ceux de son ancien vice-président Riek Machar. Mais au-delà des violations massives et flagrantes des droits humains tels que les viols exercés sur les femmes et le massacre des civils poursuit la FATS, la commission d'enquête de l'Union africaine a pu rassembler d'énormes preuves de cannibalisme. Des corps humains auraient été grillés avant de disparaître. Selon les résultats de l'enquête, les combattants des deux camps se désaltéraient du sang de leurs victimes, qui sont soit des Dinka, l'ethnie du président Kiir, soit des Nuer, l'ethnie de Machar. Selon la Frankfurt Allgemeine Zeitung, la publication du rapport Obasanjo devrait enfin servir de base fondamentale pour la constitution des preuves de crimes contre l'humanité commis au Soudan du Sud. La CPI, la Cour pénale internationale, a de quoi, en tout cas, à mettre sous la dent contre les commanditaires du conflit qui déchire le Soudan du Sud, conclut la FATS.
Et puis Bob, la FATS qui s'est également intéressée à d'autres thèmes, la présidentielle en Tanzanie dont les résultats sont contestés par l'opposition.
Voilà un scrutin qui commence bien mais qui se termine mal. Le vol est grotesque, crient les partis de l'opposition dont les représentants au sein de la commission électorale sont allés jusqu'à donner quelques coups de poing aux représentants du parti au pouvoir. Mais le comble, écrit la Süddeutsche Zeitung, c'est l'annulation du scrutin présidentiel sur l'île semi-autonome de Zanzibar à cause du fait que les résultats n'étaient pas favorables aux candidats du parti au pouvoir. Et malgré la forte protestation de l'opposition contre l'annulation des élections générales à Zanzibar, les choses sont restées telles. Pourtant, la Tanzanie, sous la direction du président sortant, Jakaya Kikwete, était perçue comme un modèle de démocratie et selon le quotidien bavarois, la Süddeutsche Zeitung, en dépit de la protestation majeure des partis de l'opposition, la Commission nationale électorale a dit n'avoir aucune preuve de fraude. En clair, en Tanzanie, comme dans un bon nombre de pays africains, il est difficile de gagner des élections quand on est dans l'opposition, conclut le journal.
Oui, c'est une évidence, Bob Barry. Difficile donc de gagner une élection en Afrique lorsque nous sommes dans l'opposition. Merci pour l'Afropresse et on se retrouve peut-être la semaine prochaine, hein, Bob.
C'est bien cela.
Et bonne fin de week-end à vous.
À vous aussi.
Le peuple est devenu trop riche. S'il n'a pas la maîtrise, il livre à la folie des grandeurs.
Le train d'Afrique 7 jours entre bientôt en gare. À la présentation, c'était Eric Topona. Merci pour votre fidélité à la Deutsche Welle, la radio internationale allemande, et à la semaine prochaine.